de vous parler d'un sujet difficile pour vous et pour moi, la nation. C'est un sujet difficile parce que le mot nation, les dérivés du mot nation, nationalité, nationale, puisqu'on fait avec les dérivés, identité nationale, unité nationale, intégration nationale, sont des mots difficiles à définir et des mots qui opposent. Donc, si on ne veut pas en venir aux mains, il faut en venir aux mots. Et je vous propose de le faire en partant de réalités que je connais un peu, mais que vous connaissez certainement mieux que moi, en tout cas pour l'une d'entre elles. Trois réalités. L'Organisation des Nations Unies, il y a le mot nation dedans. Le tournoi des six nations. C'est une compétition sportive. Et puis, un lieu qui est à l'autre bout de Paris, mais ça vous arrive quand même d'aller à l'Est, j'espère, la place de la nation. Il y a le mot nation dans les trois expressions, c'est un piège. Dans les trois expressions, ça ne veut pas dire la même chose. L'Organisation des Nations Unies, le mot nation ici est pratiquement synonyme d'État. Mais si on avait appelé ça l'Organisation des États-Unis, ça aurait fait désordre. Encore que quelquefois, l'Organisation des Nations Unies, ça ressemble à l'Organisation des États-Unis. Le mot nation ici veut dire État. Si vous prenez un globe terrestre avec des petites figures géométriques de toutes les couleurs, eh bien vous avez sous les yeux l'image de ce que sont les Nations Unies ou désunies. C'est le premier sens du mot dans mon introduction. Ça veut dire une unité politique. Vous m'entendez? Merci. Deuxième sens du mot, le tournoi des six nations. Le tournoi des six nations, c'est une compétition sportive qui oppose six équipes de rugby. Alors, on va les citer. L'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse, l'Irlande, la France et l'Italie. Intéressons-nous d'abord à l'Écosse. Est-ce que l'Écosse est membre de l'Organisation des Nations Unies? Plus fort? Oui ou non? Non! Vous avez tout compris. L'Angleterre, non plus. Le Royaume-Uni, oui, mais l'Angleterre, non. Le Pays de Galles, non plus. L'Italie, oui. La France, oui. Et l'Irlande, car il s'agit de l'Irlande, pays indépendant, oui. Donc vous voyez que ça n'a sans doute pas le même sens. Eh bien, ici, nation, ça veut dire communauté, ça veut dire peuple. Si vous prenez un mot du 19e siècle, ça veut dire race. Dans un poème de Victor Hugo que j'ai relu avant-hier, on parle de la race italienne. Ça veut dire ethnie. Ça n'a pas le même sens. Et puis, allez vous promener place de la nation. Traversez, installez-vous au milieu de la place et vous verrez sur un socle très joliment tagué une belle, fine, élancée femme coiffée d'un bonnet phrygien. Elle est debout avec l'élégance d'une danseuse, je ne sais pas comment elle fait, sur un globe, lui-même porté par un char tiré par deux lions féroces. Sur le lion de droite, il y a un homme musclé, comme vous n'en verrez jamais, mesdemoiselles, qui porte une torche et qui éclaire le monde. Eh bien, cette nation-là, c'est une reine, c'est une souveraine. C'est encore un troisième sens. Donc, une nation, on va oublier la souveraine quelques instants, on la retrouvera tout à l'heure. Pour lui faire plaisir, il faut que je passe devant. C'est un peu casse-pied d'être comme un chien, d'avoir une laisse très longue. Donc, la nation souveraine, on va l'abandonner un petit peu. On va s'intéresser à la nation, pour l'instant, unité politique et communauté. Et ce que je veux simplement vous dire, c'est que quand une nation est à la fois une communauté et une unité politique, c'est synonyme d'État. Une communauté, la France, bon, cherchons pas plus longtemps pour l'instant, eh bien on appelle ça un État-nation. La France, c'est un État-nation, parce que c'est à la fois une unité politique, et vous savez maintenant que c'est synonyme d'État, et c'est aussi une communauté, la communauté nationale, c'est un État-nation. Donc, le deuxième point de mon intervention, ce sera pour réfléchir avec vous sur les relations qui existent entre l'État et la nation. Pour l'instant, soyons très simples, ne cherchons pas à savoir, à définir ce que c'est que l'État. L'État, c'est un acteur, ça suffit pour l'instant, des relations internationales. La seule question, quand on dit qu'une nation, celle à laquelle je m'intéresse pour l'instant, c'est à la fois une unité politique et une communauté, ça va être de jouer à l'œuf et à la poule. Vous savez, qui est-ce qui a fait l'œuf? C'est la poule ou c'est la poule qui a fait l'œuf? Qui est-ce qui a fait la communauté? C'est l'unité politique? Ou bien c'est la communauté qui a fait l'unité politique? On ne va pas perdre 3 heures là-dessus. Mais vous voyez le genre de questions qu'on peut se poser. Et en fait, il y a plusieurs cas de figure. Vous avez des nations, communautés, qui n'ont pas d'État. On parlait tout à l'heure de l'Écosse. C'est une nation écossaise. Elle n'a pas d'État. Même si je n'ai que 45 minutes, il y a à Édimbourg un Parlement. Et le Parlement écossais, il a beaucoup plus de pouvoir que, par exemple, le Conseil régional d'Île-de-France. Le Parlement écossais, il peut voter des lois, sauf en matière d'impôts. Il ne peut pas voter l'impôt. Il ne peut pas voter des lois qui concernent la défense nationale. Et il ne peut pas ratifier des traités. Ratifier un traité, ça veut dire faire entrer, si ça existait dans le droit écossais, en droit de l'Écosse, les dispositions d'un traité que l'Écosse aurait signé avec un autre État. Impôts, défense, relations internationales, sur ces 3 points-là, le Parlement écossais n'a pas de pouvoir. Mais en revanche, il peut voter une loi sur l'urbanisme. Et alors c'est d'autant plus amusant que ça n'empêche pas les Écossais d'être aussi présents au Parlement que vous connaissez, c'est-à-dire le Parlement de Westminster. Alors que les autres citoyens du Royaume-Uni ne sont pas présents au Parlement écossais. Alors que le Premier ministre du Royaume-Uni, qui s'appelle Gordon Brown, est un Écossais. C'est bizarre, non ? On ne va pas en parler, je n'ai que 45 minutes, mais on pourra continuer tout à l'heure si vous voulez. Autre exemple de nations qui n'ont pas d'État, la Corse. Pour prendre un exemple un peu mieux de chez nous, la Corse, en 1982, a été créée comme une région. Ça a même été la première région qu'on ait créée. Les autres, on les a créées un tout petit peu plus tard. Et en 1982, le Conseil régional de Corse, vous savez comment on l'a appelé ? L'Assemblée de Corse. Les mots, je vous l'ai dit, ont beaucoup d'importance. C'est une concession verbale au besoin corse de s'imposer, de s'identifier, de s'exprimer comme une nation. Et puis en 1991, donc 9 ans plus tard, il y a une loi, la loi de 1991, qui a décrit les institutions des Corses, et le premier article de la loi disait que la Corse est un peuple corse. Un peuple corse. Alors vous savez, il existe dans notre pays une institution qui s'appelle le Conseil constitutionnel, que les parlementaires peuvent saisir après qu'ils aient voté une loi et avant que cette loi entre en application. Et ils peuvent saisir le Conseil constitutionnel quand ils estiment que la loi qui vient d'être votée n'est pas conforme à notre Constitution. Eh bien, le Conseil constitutionnel a dit qu'on n'avait pas le droit de parler du peuple corse parce que c'était une atteinte à l'indivisibilité de la République. Donc voilà encore un exemple d'une nation qui n'a pas d'État. Maintenant, il y a au contraire des États qui ont beaucoup de nations. Ce sont les États multinationaux. On en rencontre dans les programmes d'histoire. L'Autriche-Hongrie, jusqu'en 1918, c'était un État qui comportait plusieurs nations au sens de plusieurs communautés. Il y avait bien sûr des Autrichiens, il y avait des Hongrois, il y avait des Croates, etc. Autre exemple d'État multinational, revenons à l'exemple de tout à l'heure, le Royaume-Uni. Il y a des Irlandais, il y a des Écossais, il y a des Gallois. Rien à voir entre les Gallois et les Écossais. Vous êtes déjà allé à Londres, vous prenez la M4 avec une petite voiture, au bout de 2 heures, vous êtes au Pays de Galles. En Écosse, c'est un autre problème. D'abord, il faut franchir le mur d'Adrien. Vous savez, c'était les Romains qui avaient construit ça. Et puis, l'Assemblée du Pays de Galles, ben, ça ressemble beaucoup à nos conseils régionaux. Ça n'a rien à voir avec le Parlement écossais. N'empêche que le Pays de Galles, c'est une nation, que le Royaume-Uni, c'est multinational. L'Angleterre est une nation qui fait partie du Royaume-Uni. Donc il y a des États multinationaux. Et puis il y a la merveille, la perfection, l'État-nation. Un État, une nation. Le meilleur exemple pour nous Français, c'est la France. Mais il y en a bien d'autres. L'Italie, etc. Alors comment est-ce que les nations, États se sont constituées? Ça, c'est une des grandes préoccupations des historiens. Ils vont vous raconter comment, au fil des mariages, au fil des batailles, au fil des traités, les États-nations se sont constitués. Donc, voilà, c'est la première chose que je voulais vous indiquer. J'ai déjà parlé un quart d'heure. Maintenant, je voudrais, avec vous, qu'on s'intéresse davantage à cette merveilleuse dame de la place de la nation, c'est-à-dire à la nation souveraine. Je crois que le mieux, c'est déjà de vous donner une définition de la souveraineté, assez simple. La souveraineté, c'est le pouvoir, ou si vous préférez, la capacité d'établir des lois ou d'établir des règles et de les faire respecter sur un territoire. La souveraineté, c'est la capacité d'établir des lois et de les faire respecter sur un territoire. La nation, qu'elle soit unité politique ou communauté, c'est la même chose, hein. Dès lors qu'elle correspond à un État, si la communauté est un État, si c'est unité politique, c'est une nation, ou plusieurs nations, hein. L'unité politique peut être multinationale. La nation, entendue dans ce sens-là, nation-État, elle a deux attributs. Le premier, c'est un territoire. Une nation sans territoire, ça peut être une communauté, mais ce n'est pas une unité politique. Et le deuxième attribut, c'est la souveraineté. Qu'est-ce que c'est? C'est le résultat d'une aventure tragique qui est arrivée à un professionnel qu'on a renvoyé, qui a été au chômage. Le roi. Le roi était souverain. Sortez le roi. Petites annonces. Demandons souverain. Deux candidatures. Le peuple, la nation. Examen des candidatures. Le peuple. Le peuple, c'était le préféré de Jean-Jacques Rousseau. Il a écrit en 1762 le contrat social. Et pour lui, c'était le peuple qui devait remplacer le roi. Assez commode, le peuple. On peut physiquement le voir s'il n'est pas trop important. Première difficulté, dans les cités grecques, le peuple était peu important, on le réunissait sur l'agora et il délibérait sur les affaires de la cité. D'autant que ni les femmes, ni les métèques, c'est-à-dire les métèques, c'était les étrangers qui vivaient dans la cité, ni les esclaves ne faisaient partie du peuple. Donc quand vous commencez par exclure 99% de la population, c'est déjà plus facile de réunir les gens quelque part. Mais déjà à Rome, avec l'Empire romain, les citoyens romains étaient tellement nombreux qu'en réalité, ça n'était pas des citoyens politiques. Ils ne géraient pas les affaires de la cité. Les citoyens romains, c'était des titulaires de droits. Ils avaient des droits civils, ils avaient des droits personnels, ils avaient le droit, par exemple, de posséder une maison, alors que ceux qui n'avaient pas la citoyenneté romaine n'avaient pas les mêmes droits. D'ailleurs, vous savez bien que la grande invention de Rome, c'est le droit. Et comment est-ce qu'on s'en sort aujourd'hui? Est-ce qu'on réunit les 62 millions de Français? Enfin, pardon, je suis en train de compter les bébés. Ça va pas. Mais enfin, ceux qui ont le droit de vote, bien sûr que non. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ils ont des représentants. Eh bien, aussi bizarre que ça puisse vous faire paraître, la représentation, qui est une idée évidente pour nous, elle est tellement pas évidente que les Romains ne la connaissaient pas. Qui est-ce qui a inventé la représentation? Les Anglais. Quand? Très vite. Dès le 11e, 12e siècle. Les Anglais ont inventé trois choses. La représentation, les libertés concrètes, non pas la liberté avec un grand L, mais les libertés concrètes. La liberté d'aller aux toilettes pendant les heures de classe. La liberté qu'on ne vous demande pas des impôts alors que vous ne voulez pas les donner. La liberté de faire du commerce. La liberté de se promener dans la rue. Les libertés concrètes, les franchises. Les libertés arrachées par les communautés, par les villes, par les barons du roi, par les universités, au roi. Et puis ils ont inventé aussi le parlementarisme qui est le régime de l'État où le roi est contrôlé, check, et dont les pouvoirs sont équilibrés, balance, par des représentants des communautés. Et ça, c'est né très vite. Et on ne peut pas comprendre, quand on s'intéresse, par exemple, à la question de savoir si dans nos pays respectifs, les communautés doivent avoir une existence ou pas, on ne peut pas comprendre ce qui se passe en Angleterre par rapport à ce qui se passe en France, si on fait abstraction de cela. Les communautés ont très tôt, en Angleterre, en tant que telles, été présentes dans les institutions politiques. Par exemple, au Parlement de Westminster, l'Université d'Oxford ou l'Université de Cambridge, on parle de l'autonomie des universités en ce moment, elles avaient des représentants au Parlement. Et cela a duré jusqu'en 1948. Donc, je reviens à mon idée de représentation, et puis accessoirement, je vous ai dit que ça avait été une invention anglaise, et que les Anglais n'avaient pas inventé que ça, mais qu'il a fallu attendre très longtemps. Alors je reviens maintenant à Jean-Jacques Rousseau. Il veut que le peuple soit souverain. Le peuple, il est trop nombreux. Mais Jean-Jacques, c'est un citoyen de Genève, un petit canton suisse, où, à la limite, on pouvait encore peut-être, j'en sais rien, je ne sais pas combien ils étaient, à la veille de la Révolution française, réunir les citoyens sur une place. Mais dans le royaume de France, il y avait peut-être 20 millions d'habitants, ce n'était pas possible. Mais c'était un têtu, Jean-Jacques. Il voulait quand même que le peuple soit souverain, même si on ne pouvait pas le réunir. Et il ne voulait pas qu'il soit représenté, car, disait-il, la représentation du peuple, c'est la fin de la souveraineté du peuple. C'est un débat qui a encore lieu aujourd'hui. Mais il était intransigeant. Bien que les choses ne soient pas possibles, il ne voulait pas en démordre. Le peuple sera souverain, il n'y aura pas de représentant du peuple. Fichtre. Comment on fait alors? Coup de génie. Un monsieur qui s'appelle Sieyès. Alors moi, franchement, avant d'être au moins en deuxième année, je ne savais pas qui c'était. Mais maintenant, vous devez savoir. Ça s'écrit S-I-E-Y-E-S. Il a écrit un petit libelle juste avant que les États généraux ne se réunissent en 1789. Ça s'appelait « Qu'est-ce que le tiers État ?» Vous savez, la France était divisée, non pas en classe sociale, mais en trois ordres. Le tiers État, la noblesse et le clergé. Et il a répondu à la question, ben, le tiers État, c'est la nation. Et à partir de ce moment-là, la nation est devenue, c'est très abstrait, c'est très bizarre, mais c'est très français, le moyen d'éviter de remplacer le roi par le peuple. Car si le peuple, on peut hésiter, on peut se demander s'il va avoir des représentants ou pas, on peut dire qu'il n'en aura pas, puisque physiquement, vous pouvez le rassembler. La nation, vous déjeunerez jamais avec elle. Si vous la trouvez belle, vous ne pourrez pas l'emmener au cinéma. Vous êtes obligé d'avoir des représentants en chair et en os de cette belle allégorie qui est la nation. Et on a résolu le problème comme ça. On a dit la nation est souveraine et la souveraineté sera exercée par ses représentants. Alors de tout cela, il est resté des idées, il est resté des conséquences dans le droit positif. Alors là, je prends mon papier. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Constitution du 3 septembre 1791, c'est-à-dire la première constitution dont la France se soit dotée, qui a été votée par l'Assemblée constituante, c'est-à-dire les États généraux réunis par le roi qui se sont transformés en Assemblée constituante. Qu'est-ce qui est écrit dans cette constitution du 3 septembre 1791 ? La souveraineté est une, indivisible, inaltérable et imprescriptible. Elle appartient à la nation. Et alors vous allez voir à quel point la constitution de 1958, la vôtre, la mienne, la nôtre, est délicieuse. Plus jésuite, je meurs. Je cite. La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants. On garde la souveraineté nationale, on dit qu'elle appartient au peuple, et on dit qu'elle s'exerce par ses représentants. C'est la meilleure façon de brouiller les idées simples qu'on essaie de donner à des étudiants en droit constitutionnel, où on se tue à leur expliquer qu'il ne faut pas confondre la souveraineté nationale et la souveraineté populaire. La souveraineté nationale, c'est une souveraineté qui est déléguée à des représentants qui n'ont pas un mandat impératif, c'est-à-dire qui se présentent aux élections avec un programme. Mais si vous votez pour eux, ça ne veut pas dire qu'ils vont être obligés de faire ce qu'ils vous ont dit. C'est ça la démocratie. La souveraineté populaire, au contraire, c'est lorsque le peuple a des représentants, parce qu'on ne peut pas faire autrement, on sait bien aujourd'hui. Mais les représentants du peuple ont un mandat impératif. Il n'est pas question qu'ils bougent d'un iota de ce que vous êtes censé leur avoir demandé de faire. Et ce que vous êtes censé leur avoir demandé de faire, c'est ce qu'ils vous ont proposé. Eh bien, la Constitution de 58 est merveilleuse, parce que je répète encore la phrase. Elle hésite entre les deux. La souveraineté nationale, donc là c'est représentation sans mandat impératif, appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants. Alors selon les époques de notre histoire, on a préféré parler de représentants de la nation ou de représentants du peuple. En ce moment, si vous voulez vous faire bien voir, vous parlerez plutôt de représentants de la nation. Mais si vous étiez des jeunes de 1848, vous auriez parlé de représentants du peuple. Quand vous allez devant l'entrée de l'Assemblée nationale, si vous regardez la petite plaque historique mise par notre ami Decaux, vous lirez et vous verrez que ces locaux sont, depuis l'Assemblée qui a été élue en 1848, le lieu où se réunit notre Assemblée. Et vous verrez qu'on parle 1848, c'était des représentants du peuple. La dernière chose que je voulais vous indiquer à propos de la nation souveraine, c'est que finalement le mot « nation » c'est un cadeau de la monarchie à la République, et c'est pour ça que je vous ai fait distribuer, mais alors, non, c'est pas la peine de m'en donner un, parce que j'ai le double, je vous ai fait distribuer un petit papier, la photocopie de 2 pages de livre, que je trouve des pages très très amusantes, bon, on peut rigoler plus facilement. Hein. Alors, ça se passe, vous allez essayer de rêver un petit peu. Ça se passe en mars 1766. Je vais vous lire un extrait d'un discours prononcé par le roi de France, Louis XV, en mars 1766, devant qui ? Devant les magistrats qui composaient le Parlement de Paris. Et on disait à l'époque que le Parlement de Paris, comme d'ailleurs tous les parlements de France, étaient des cours souveraines. Oh là là ! Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors les parlements, c'était des tribunaux, hein ? Mais pourquoi c'était des cours souveraines ? Eh bien parce que une décision du roi, un édit du roi, une ordonnance du roi, à cette époque-là, le roi avait la souveraineté. C'était lui qui avait la capacité d'édicter des lois sur l'ensemble du territoire. Il faisait quand même pas tout à fait ce qu'il voulait. Parce que pour que la loi du roi, pour que l'édit du roi, pour que l'ordonnance du roi, peu importe tous ces mots-là sont plus ou moins synonymes, s'applique dans le ressort d'un parlement, il fallait que le Parlement l'enregistre. C'était une formule, une procédure, l'enregistrement de l'édit du roi. Alors les parlementaires se réunissaient très gravement, ils discutaient beaucoup. La plupart du temps, ils enregistraient l'édit du roi. Mais s'il y avait quelque chose qui ne leur plaisait pas, ils avaient le droit de subordonner l'enregistrement de l'édit du roi à des remarques qu'ils faisaient. On appelait ça des remontrances. Il faisait au roi des remontrances. Le pouvoir de la Cour des comptes de faire des observations sur la gestion de l'argent public, ce n'est finalement que le dernier avatar de ce droit de remontrance des parlements de l'Ancien Régime. Sauf que dans l'Ancien Régime, c'était beaucoup plus important, parce que la Cour des comptes doit faire des observations sur l'emploi de l'argent public, mais la mise en application des lois ne dépend pas de la Cour des comptes. Alors que l'enregistrement, donc la mise en application des lois dans le ressort de chaque Parlement, dépendait du Parlement. Et de temps en temps, le Parlement, surtout vers 1770-1780, ne voulait pas enregistrer les édits du roi. Il y avait une espèce de fronde, enfin le mot fronde ne vient pas de cette époque, ça vient du XVIIe siècle. Là, on est à la fin du XVIIIe. Le roi avait la possibilité de passer outre. Qu'est-ce qu'il devait faire ? Eh bien, il devait se rendre en personne dans les locaux du Parlement et il tenait ce qu'on appelait un lit de justice. Il ne se couchait pas, hein ? Un roi, ça ne se couche jamais. Non, non, il s'asseyait simplement. Il s'asseyait, il lisait un discours et il demandait aux parlementaires de bien vouloir enregistrer son édit. Eh bien, vous lirez ce texte. Je ne vais finalement pas le lire avec vous pour respecter mon temps, mais vous le lirez. L'idée générale, c'est que le roi leur explique que si tous les parlements de France se mettaient, en s'entendant entre eux, à refuser d'enregistrer un édit royal, eh bien, ils deviendraient souverains à la place du souverain, roi à la place du roi, souverain de la nation. Et que cela était, je n'ai pas dit la nation souveraine, hein, souverain de la nation. Et que cela était intolérable. Car qu'est-ce que c'était que la nation ? C'était la communauté du roi et de ses sujets. Mais seul le roi était souverain, les sujets ne l'étaient pas. Et le roi n'avait pas à partager avec des parlementaires, avec des officiers de justice, comme on disait à l'époque, son pouvoir de souveraineté. Alors ça, je crois que c'est très très important. Voilà pour la nation souveraine. Alors à partir du moment où on a quand même cette statue sur la place de la nation, à l'est de Paris, la question qu'on va se poser, eh bien oui, d'accord, on a compris, la nation c'est une communauté souveraine, hein. Mais qui fait partie de la nation ? Alors c'est mon quatrième point. Qui donc va faire partie de cette nation qui a remplacé le roi pour éviter qu'on ait le peuple ? Qui va en faire partie ? Il y a trois réponses. Il y en a deux sur lesquelles on insiste beaucoup, mais qui relèvent plus des idées politiques ou de la philosophie. Et il y en a une qui est très pratique. Les deux réponses qui relèvent de la philosophie politique, on va les développer ensemble. La première, la nation, c'est une communauté ethnique. La deuxième, la nation, c'est une communauté politique. Je vais expliquer. Mais en pratique, la nation, c'est une communauté juridique. La nation est composée des gens auxquels le droit de la nationalité a conféré la citoyenneté. Pratiquement. Aujourd'hui, c'est bien ça. Donc, communauté ethnique, communauté politique, communauté juridique. Communauté ethnique, qu'est-ce que c'est qu'une ethnie ? Bien, vous savez, en Grèce, le peuple démos, Ça pouvait soit, s'il était organisé politiquement, une cité, une police, P-O-L-I-S, hein, pas L-I-C-E, métropolis. Donc si le peuple d'Émos était organisé en communauté politique, c'était une cité, une police. Et s'il n'était pas organisé en communauté politique, eh bien, le peuple, c'était une ethnie. Voilà. Et l'ethnologie, c'est l'étude des peuples et de leur histoire. Je me suis servi d'un certain nombre d'ouvrages pour préparer cette conférence, mais je voudrais rendre hommage à, en particulier, une femme qui s'appelle Dominique Schnapper. Alors ça s'écrit S-C-H-N-A-2-P-E-R, Dominique Schnapper. Elle est membre du Conseil constitutionnel. C'est une sociologue. On verra d'ailleurs, peut-être dans un moment, si j'ai le temps, que viennent faire les sociologues dans un domaine dont vous pourriez penser a priori qu'il est le domaine des historiens. Et je lui emprunte la définition de de l'ethnie, puisque je suis dans la partie de ma démonstration qui consiste à répondre à la question « Mais qui fait partie de la nation, de la communauté souveraine ?» Alors, première conception, eh bien, les membres d'une ethnie. Une ethnie, c'est un groupe d'hommes, de femmes, unis par un sentiment de communauté historique et d'identité collective. Vous inquiétez pas, les mots identité, on le reverra. Les hommes d'une même ethnie, les femmes d'une même ethnie partagent la même histoire, réelle ou recomposée, parce que l'histoire, on la refait. Identité, hein. Les personnes d'une même ethnie partagent la même identité collective. Il y a une conférence, je fais de la publicité hein, pour moi un peu, hein, de l'Université de tous les savoirs sur la notion d'identité. Chacun d'entre vous a une identité personnelle. Couleur de ses yeux, sa date de naissance, enfin bref, ce qui fait qu'il est unique au monde, son patrimoine génétique surtout. Heureusement, ce n'est pas encore la conséquence de la mise en carte des citoyens. Mais rassurez-vous, ça viendra. Et puis, il a aussi une identité collective. Il en a même plusieurs. Si vous faites du tennis, ben vous appartenez à la collectivité des joueurs ou des joueuses de tennis. Mais dans la mesure où vous appartenez à une nation, vous avez une identité collective qui est une identité nationale. Bon, c'est tout ce que je voulais dire pour l'instant. Cette nation ethnique, cette conception éthique de la nation, c'est une conception qui est fermée parce que vous ne l'avez pas choisie, votre nation. Vous appartenez à une nation parce que vous êtes membre d'une ethnie. Cette conception de la nation n'était pas celle des révolutionnaires. Alors j'en viens maintenant à ma deuxième conception, la conception politique. Elle n'était tellement pas la conception des révolutionnaires, la conception ethnique, que pour les révolutionnaires, la nation, elle était universelle. Alors c'est très compliqué à comprendre. Moi, je dois dire que il m'a fallu beaucoup de temps pour essayer de me mettre dans la peau de ces gens à la fin du XVIIIe siècle, qui avaient hérité, on l'a vu, de la conception monarchiste de la nation. C'était quand même une communauté de sujets. Le roi avait fait l'unité nationale, il s'était battu. C'était agressif, la nation. Et voilà mes révolutionnaires qui en font quelque chose d'universel. Alors, je crois que pour vous faire comprendre comment on a pu penser qu'une nation pouvait être universelle alors qu'on était sur les bords de la Seine, il faut que je vous présente deux personnages essentiels de la Révolution française. À ma droite, le citoyen, à ma gauche, le tyran. Le citoyen. Le citoyen, d'abord, ce n'est pas l'homme. Sans quoi, pourquoi y aurait-il eu une déclaration des droits de l'homme et du citoyen? L'homme, La femme, c'est quelqu'un qui a une existence concrète. Il a ou elle a les pieds dans la boue de son village. Il a ou elle a des intérêts particuliers. Et ne vous y méprenez pas. Pour la Révolution, ces intérêts sont légitimes. Ils doivent être déclarés, ils doivent être défendus, ils doivent être protégés. Le droit de propriété, c'est un droit de l'homme, ce n'est pas un droit du citoyen. Le citoyen, au contraire, c'est un être abstrait, comme vous n'en rencontrerez probablement jamais, sinon dans le meilleur de vous-même, un jour où vous aurez vraiment veine de perfection. Le citoyen, c'est quelqu'un qui ne connaît pas les intérêts particuliers. C'est quelqu'un qui est amoureux de l'intérêt général. Et je reviens à Jean-Jacques Rousseau, 1762, le contrat social. Il disait, le citoyen, c'est quelqu'un qui a l'amour de la patrie. Mais l'amour de la patrie, c'est pas ce qu'on croit aujourd'hui. Hein. L'amour de la patrie, c'est pas ce sentiment guimauve affectif. L'amour de la patrie, c'est la capacité de concevoir la volonté générale supérieure à la volonté particulière. Et dans les livres de droit constitutionnel, lorsque vous en ferez peut-être ou pas, vous verrez, on écrit la loi est l'expression de la volonté générale. En tant qu'homme, vous avez une volonté particulière, elle est changeante d'ailleurs, au gré de vos activités, au gré de vos amours, au gré de vos sensations. Mais en tant que citoyen, vous n'avez qu'une seule volonté, la volonté générale. Vous n'avez qu'une seule chose en tête, l'intérêt général de la communauté. Ça existe, ça ? C'est un mythe, mais il faut des mythes fondateurs, sans quoi on ne crée pas de grandes choses. Donc c'était ça, le citoyen. Et donc, le citoyen, évidemment, c'est toujours pareil, tout le monde n'était pas citoyen. D'ailleurs, les femmes tricotaient à la tribune des assemblées révolutionnaires. Elle ne faisait pas de discours, elle ne votait pas. Mais néanmoins, le citoyen, la citoyenneté était universelle, elle était ouverte à tous les hommes du monde, à tous les hommes du monde. Et qu'est-ce qui s'opposait à ce que tous les hommes du monde deviennent citoyens de la République, de la Jeune République ? Eh bien, je vous présente maintenant mon deuxième ami que j'ai invité ce soir, qui est heureux de vous rencontrer. Le tyran. La Révolution française n'a pas déclaré la guerre au peuple. Elle n'avait pas une conception ethnique de la nation. Tous les peuples faisaient partie de la nation française, potentiellement. Elle a déclaré la guerre au tyran. Et lorsqu'il n'y aura plus de tyran sur cette terre, eh bien, la nation sera vraiment et réellement universelle. Vous direz, c'est naïf. C'est naïf parce que vous avez vécu, par l'intermédiaire de vos ancêtres et directement depuis déjà 17, 18 ou 19 ans, sur cette terre. Mais quand on est à l'aube d'une ère nouvelle, tout est possible. Donc c'est ça qui est absolument extraordinaire et qu'il faut bien comprendre. Les révolutionnaires avaient une conception universelle de la citoyenneté. Et c'est tellement vrai qu'il ne fallait pas leur parler de nationalité. Nationalité n'est pas un mot de la Révolution. Il n'y avait pas besoin d'avoir la nationalité française pour être citoyen. Parce que quand vous étiez citoyen, vous n'étiez pas citoyen de France. Vous étiez, avant la lettre, pas citoyen du monde, mais enfin en tout cas citoyen de l'Europe. C'est vraiment étrange, mais je vous assure que c'est comme ça. Et dans la belle langue italienne, le mot nationalité n'existe pas. On parle encore de citoyenneté, c'est la même chose. La nationalité, c'est venu beaucoup plus tard. On verra peut-être tout à l'heure. Oh, je peux vous le dire tout de suite d'ailleurs. C'est venu dans les années 1825-1830 de la traduction d'un ouvrage allemand dont je ne vous cache pas le titre, je pourrais vous le donner. Je ne suis pas sûr de moi d'ailleurs, parce que l'origine du mot nationalité dans notre vocabulaire, ce n'est pas quelque chose qui est totalement clair. En tout cas, je peux vous assurer qu'avant les années 1825-1830, ça ne s'utilisait pas. Et que les premiers qui s'en soient servis, c'était les historiens, c'était Michelet, Augustin Thierry. Mais pour un révolutionnaire, la nationalité, ça n'avait pas de sens. La citoyenneté, c'est pour tout le monde. Alors, donc, la conception de la nation des révolutionnaires ne pouvait pas être une conception ethnique. C'était une conception politique. Pourquoi politique ? Parce que la nation, c'était les citoyens. Puisque la nation était souveraine, eh bien, il fallait des citoyens. Et les citoyens, c'est ceux qui géraient les affaires de la cité. C'est en cela que je vous dis que c'est une conception politique. Mais évidemment, tout ça a été dévoyé. Car d'universel, la conception est devenue en réalité impérialiste. C'est pas pour rien qu'on est passé de la République à l'Empire. La nation française, définie comme une communauté universelle, s'est mise au service de la nation française, unité politique, pour conquérir l'Europe. Mais c'était déjà plus la même chose. Et la communauté, la conception ethnique de la nation s'est vengée très vite. Dès 1807, dès 1808, Fichte, alors ça je sais que vous avez eu des extraits de Fichte, dans ses discours à la nation allemande, après la défaite de Iéna, a été probablement le premier face à la conception universelle de la nation qui était en réalité devenue une conception impérialiste, à ouvrir des contre-feux et à dire attention, la nation c'est pas ça, en tout cas la nation allemande c'est pas ça, et j'y reviendrai peut-être dans les questions, parce que ça me prendrait du temps, mais en tout cas j'ai un certain nombre de textes qui sont assez étonnants, dans lesquels, et c'est pas dans les textes qu'on a distribués à certains d'entre vous, dans lesquels il explique que ce qui fait le lien, le critère de la nation allemande, c'est la langue. C'était défensif, et ce qui était défensif en 1807-1808 est devenu offensif en 1870, lorsque, après la guerre de 70-71, la création de l'Empire allemand, l'Alsace-Lorraine est devenue allemande. Et là, je dis que c'est offensif, parce que Fichte, avec sa conception ethnique de la nation, se défendait contre la conception universelle de la France, alors qu'en 1870-71, un Allemand, il s'appelle Mommsen, mais vous avez le nom M-O-2-M-S-E-N, affirmait que, naturellement, l'Alsace-Lorraine était allemande, parce que elle était allemande par sa langue, elle était allemande par son histoire, elle avait appartenu au Saint-Empire romain germanique, etc. Donc, vous voyez, c'est amusant, comme quoi les mêmes idées, dans des contextes différents, peuvent parfois être offensives, parfois défensives, qu'il faut toujours se méfier des retours de bâton de l'histoire. Et puis, alors, je suis toujours dans ma nation communauté politique, hein, malgré les apparences, hein, soyez pas perdus. Alors, Fichte, ensuite, Mommsen, la réponse que vous avez de Fustel de Coulanges, et puis le texte de Renan. Alors le texte de Renan, je voudrais y revenir un petit peu, pour dire trois choses. La première, c'est qu'il y a une partie qui est, à mon avis, encore aujourd'hui totalement convaincante, c'est quand il dit ce que n'est pas la nation. La nation n'est pas une race, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nationalité du sang, c'est probablement ça que ça veut dire, c'est toujours compliqué de savoir ce que veut dire race. La nation n'est pas une langue, enfin le critère qui fait qu'on appartient à une nation, c'est pas la langue. La nation, c'est pas la géographie. Petite confusion d'ailleurs entre la nation communauté et la nation unité politique là. La nation, c'est pas des intérêts. Alors ça, c'est un coup de pied dans le derrière du marché commun, vieille formule, ou du Zollverein à l'époque plutôt. Mais alors, qu'est-ce que c'est que la nation? Je suis toujours dans ma première observation, positivement. Alors c'est là où c'est plus compliqué. Parce qu'il dit, premièrement, finalement, c'est un héritage. Enfin, il y a un certain nombre de passages où on voit bien que la nation est faite de ce dont on hérite. Et ça, ça a quand même une petite connotation un peu ethnique. Hein. Et puis, deuxièmement, il dit, la nation, c'est de vouloir faire des choses ensemble. Alors ça, c'est pas du tout ethnique. Ça peut, à la limite, rejoindre l'universel. La deuxième chose que je voulais faire observer sur Renan, c'est que ce très beau texte a évidemment quelques contradictions. Par exemple, il va vous dire la nation est un principe spirituel. Et puis il va vous dire aussi la nation est un plébiscite de tous les jours. Alors, si c'est un principe spirituel, un principe, c'est ce qu'au début. Alors évidemment, le plébiscite de tous les jours va avoir pour objet de confirmer ce qui est au début. On peut toujours réconcilier les choses qui apparemment sont contradictoires. Mais enfin, pour moi, il y a peut-être une petite contradiction, ce qui n'est pas grave d'ailleurs. Et puis, alors là, la contradiction est beaucoup plus grande. À un moment donné, positivement, il définit la nation comme ce qui est hérité du passé. Et dans une autre partie du discours, il vous dit, attention, une nation, par essence, elle s'est oubliée. Et ça, c'est un débat, alors, qu'on aura continuellement. Est-ce qu'il faut que les Français s'interrogent jusqu'à la fin des temps sur ce qui s'est passé entre 1940 et 1945? Ou bien est-ce qu'il faut qu'ils l'oublient? Je n'ai pas de réponse à vous donner. C'est simplement pour vous montrer qu'il y a une petite contradiction entre les deux, et qu'à partir du moment où on fait appel à des éléments du passé qui rapprochent un peu de la conception ethnique, hein, une ethnie, c'est avoir une communauté, avoir une histoire commune. Eh bien, on est embêté parce que est-ce qu'il faut en faire l'inventaire, comme on a dit parfois de certains? Est-ce qu'il faut tous les garder? Est-ce qu'il faut en rejeter? Est-ce qu'il faut oublier? Est-ce qu'il faut se souvenir? Bon, vous répondrez à la question, c'est votre problème, c'est le mien. Mais on n'est pas obligé de répondre tous pareil. Et la troisième chose que je voulais dire, c'est que quand vous comparez le texte de Renan et de Fustel de Coulanges, eh bien, Fustel de Coulanges, lui, il insiste peu sur l'aspect héritage, et il insiste beaucoup sur l'aspect communauté de gens qui ont des intérêts communs, qui veulent faire des choses ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de la conception politique. Alors, depuis ces affrontements idéologiques, on a l'habitude d'opposer une conception allemande, une conception française, une conception occidentale, une conception orientale, une conception de la nation héritage, une conception de la nation contrainte, enfin il y a plein de mots. C'est intéressant, mais concrètement, et c'est le troisième sens, la troisième conception de la nation, une nation c'est une communauté juridique. Parce qu'aujourd'hui, en France, qu'est-ce qui va permettre de répondre à la question qu'est-ce que c'est qu'une nation? Qui appartient à la communauté? Eh bien, les gens qui ont la nationalité française. Je n'ai pas l'intention, ce serait l'objet d'une autre conférence, de parler du droit de la nationalité, mais quelques idées générales. Il est évident que le droit de la nationalité va refléter, bien sûr, les débats entre les partisans de la nation ethnique et les partisans de la nation politique. Pour simplifier, on dit parfois qu'il y a deux conceptions du droit de la nationalité, vous le savez, le droit du sol et le droit du sang. Le droit du sol, ça veut dire que vous avez la nationalité de l'endroit où vous êtes né, et le droit du sang, ça veut dire que vous avez la nationalité de vos parents, que vous la gardez. En réalité, quand vous examinez les droits de la nationalité dans les différents pays, c'est toujours une combinaison des deux. Ceux qui ont déjà assisté à la dernière conférence, d'ailleurs, ont eu sur ce point-là quelques éclairages. Donc, moi, je n'y reviens pas. Sinon, pour réinsister sur le fait qu'encore une fois, le concept même de nationalité, c'est-à-dire du lien juridique entre une personne et un État, c'est un concept que les révolutionnaires ignoraient. Ça me paraît vraiment tout à fait fondamental. Sans quoi, ils n'auraient pas pu avoir cette espèce de conception un peu folle de la nation universelle. La première grande loi sur la nationalité en France, c'est 1889. Elle est extrêmement ouverte, puisque les enfants qui sont nés sur le sol français sont français. Il y avait bien sûr une part d'idéal, mais il y avait aussi la nécessité de pourvoir largement l'infanterie, qui avait besoin d'hommes, car quelques années avant, il y avait une grande loi sur la conscription, le service militaire national, et pour avoir une armée fondée sur la conscription, il faut avoir du monde à enrôler, donc il faut avoir beaucoup d'enfants, il faut avoir beaucoup de garçons, à l'époque. Donc il y avait un lien entre les deux. Donc voilà, trois conceptions de la nation, communauté, communauté ethnique, communauté politique, et puis en pratique, c'est le droit de la nationalité. Alors, si ça vous intéresse, où est-ce que vous trouvez le droit de la nationalité? Dans le code civil, dans votre pays. C'est au titre premier des personnes du Code civil. Vous avez toute une partie sur le droit de la nationalité. Je vous propose en 5, et je tiendrai dans les temps, encore que je l'ai déjà dépassé, une conception moderne de la nation. Alors là, je vais aller vite, malheureusement d'ailleurs, c'est une conception de sociologue. On va renoncer à s'interroger sur la question de savoir si la nation est ethnique ou si elle est politique. La nation, pour un sociologue, est conçue comme ce qui permet de créer un lien dans une société, ce qui permet d'intégrer la société. Alors quand même, là, une petite explication de mots. Vous savez, vous avez un ministère qui s'appelle notamment le ministère de l'intégration nationale. Donc, non, de l'intégration. Nationale, c'est identité nationale. Intégration, ça peut avoir deux sens. Hein. Intégration de la société, intégration à la société. Dans le ministère en question, comme on a mis d'abord ministère de l'immigration et de l'intégration, on voit bien que le problème, s'il y en a un, c'est le problème de l'intégration des immigrés à la société. Alors, on pourra le traiter dans les questions-réponses. Moi, je veux simplement appeler votre attention sur les distinguos de vocabulaire. L'intégration à la société, les sociologues appellent ça aussi l'intégration tropique. Vous savez, quand vous avez un tropisme, vous allez vers quelque chose, vous allez vers la lumière, vous allez vers la société. Intégration de la société, les sociologues appellent ça intégration systémique. Le système est-il bien cohérent, bien replié sur lui-même? Alors évidemment, le système sera d'autant plus cohérent, la nation sera d'autant plus intégrée que l'intégration à la société des nouveaux arrivants se fera bien. Mon fil conducteur, c'est que la conception sociologique de la nation, c'est de faire de la nation un lien social. La citoyenneté, dont on a vu, mais ça on le garde depuis la Révolution, quelle était la conséquence du caractère souverain de la nation, c'est toujours vrai aujourd'hui. Hein. La citoyenneté, c'est justement ce qui va vous permettre de surmonter vos identités particulières, vos appartenances particulières, vos préférences particulières, vos affections particulières. Et qu'est-ce qu'il faut pour que ce lien existe? Eh bien, il faut avoir un projet politique. Je pourrais vous donner des exemples. Le projet politique des États-Unis, ça a été la démocratie. Le projet politique de l'Angleterre, ça a été la liberté et le parlementarisme. Le projet politique de la France, ça a été la nation souveraine et la citoyenneté. C'est la première chose. Ensuite, deuxièmement, ce projet politique, il faut le perpétuer. Pour les tenants de la communauté ethnique, il n'y a pas grand-chose à faire. La communauté ethnique, ben, l'ethnie se maintient. Mais pour les tenants de la communauté politique, qui repose, je retrouve mon sujet, mais sous un angle sociologique, sur un projet politique, ce projet politique, il faut le perpétuer. Et là, on voit bien le rôle de l'État. Alors, c'est tout le rôle de la Troisième République. Je ne prends qu'un exemple à cause du temps. Je vous ai dit qu'il y avait une place appelée la Place de la Nation. Elle s'appelle Place de la Nation depuis 1880, parce que c'est en 1880 qu'on a décidé que le 14 juillet serait la fête nationale. Eh bien, le choix d'une fête nationale, c'est un moyen de perpétuer le projet politique. Je vais vous en donner d'autres. La langue. Lorsque la Grèce est devenue indépendante en 1827, je parle sous le contrôle des professeurs d'histoire, les Grecs indépendants ont souhaité épurer la langue grecque de tous les apports turcs. Ils ont voulu avoir un grec pur. Vous voyez dans quoi? Il y a eu le grec pur, il y a eu le grec que parlaient les gens. Bon, c'est un exemple parmi mille autres. Le vêtement, je ne vais pas vous parler du voile islamique. Pour une fois, je vais prendre un exemple chez les garçons. Puis après, je m'arrêterai parce que ce serait trop long, la casquette. Lorsque la Turquie est devenue un État après le traité de Sèvres, enfin quand l'Empire ottoman a été démantelé, la coiffure traditionnelle des hommes, c'était le tarbouche ou la chéchère. Enfin, vous savez, cette espèce de chapeau qui n'avait pas de visière. Pourquoi il n'avait pas de visière? Parce que ça permettait de se prosterner à la mosquée. Et qu'a fait Atatürk? Il a dit, vous porterez plus ça, vous porterez une casquette. Avec une casquette, vous pouvez vous prosterner. Les jeunes des banlieues, ils ont mis la visière derrière. Pas s'ils l'ont fait exprès. Mais ça m'amuse beaucoup, ça. Alors, bon, on pourrait parler une demi-heure sur le rôle de l'État à travers des toutes petites choses ou des grandes choses pour que se perpétue la nation. Donc, un projet politique qui donne naissance à la nation. Ensuite, l'État intervient pour perpétuer la nation. Mais attention, l'État n'intervient pas, j'espère que je ne vais pas violer vos consciences, au point d'imposer, le mot est lâché, une identité nationale. Parce qu'une identité nationale, c'est fermé. Or, on va faire un peu de mathématiques. Si vous voulez que les nations réussissent l'intégration de la société, il ne faut pas que l'identité de la société soit figée. La quantité d'intégration est inversement proportionnelle à la quantité d'identité. Il n'y a pas de différence entre les mathématiques et les sciences dites humaines. Il s'agit toujours de définir au point de départ et ensuite de bien raisonner. Si vous figez l'identité d'une nation, surtout dans un moment où les hommes et les femmes se rencontrent, où il y a des avions, où il y a des trains, où il y a des bateaux, où l'information circule à la vitesse de la lumière, vous aurez peut-être du mal à réussir l'identité. Donc vous y réfléchirez, mais entre le concept d'intégration de la société et le concept d'identité nationale, il y a peut-être une certaine antinomie. Donc il faut que l'intervention de l'État soit, comme toujours et en toute chose, de juste mesure, de juste milieu. Donc projet politique, perpétuation du projet politique, et puis enfin, troisièmement, intégration du projet politique. La nation, elle est dans mon cœur. Et la conclusion, c'est qu'on n'en est pas là. C'est la crise de la nation. Alors, la crise de la nation en France peut-être, en Chine, j'en sais rien. Je veux dire, c'est État par État qu'il faut faire le constat qu'il y a crise ou pas. Il y a probablement crise parce qu'il y a des aspects extérieurs. En tout cas, pour les pays européens, la souveraineté nationale, c'est-à-dire la capacité de faire des lois sur un territoire, elle est quand même un peu limitée par toutes ces lois, ça ne s'appelle pas comme ça, mais enfin par toutes ces normes, qui sont les normes, les lois européennes. Alors le rapport entre le droit français et le droit européen, ça pourrait être l'objet d'une conférence. Mais il suffit de constater, pour les pays d'Europe, notamment pour la France, que du fait même de l'existence de l'Europe, la nation est peut-être un peu moins souveraine qu'autrefois. Ça c'est pour la France, pour l'Allemagne, l'Italie. Puis pour toutes les nations du monde, eh bien, il y a le fait que la globalisation, la mondialisation rend de plus en plus impossible à toute nation de vivre repliée sur elle-même. Et ça, c'est les aspects internationaux de la crise de la nation. Et un aspect national de la crise de la nation, c'est que le lien national se défait. Comment essayer qu'il se refasse? Eh bien, je crois qu'il y a deux réponses. La première, c'est qu'il faut peut-être retrouver le projet politique. Ce sera votre travail. C'est long, mais à mon avis, on a un projet politique de base qui n'est pas si mauvais que ça, puisqu'il fait sa place à l'universel. Donc on devrait pouvoir y arriver. Il faut retravailler le projet politique. Il faut dire à tous ceux qui parlent d'identité, ton identité, mon projet politique. Ton identité, mon projet politique. Ton identité, mon projet politique. Comme dans un film de Godard, ta ligne de chance, ma ligne de hanche. Ta ligne de chance, ma ligne de hanche. Donc il y a tout un projet politique à imaginer. Et puis, deuxièmement, peut-être faire une distinction entre la citoyenneté et la nationalité. Ce que vous avez compris, c'est qu'une conséquence de la nationalité aujourd'hui, qui n'existait pas à l'époque de la Révolution française, c'est la citoyenneté, c'est-à-dire le droit de vote. Mais les deux n'ont pas toujours été ensemble. À l'époque de la Révolution française, vous aviez la citoyenneté sans la nationalité. À l'époque de l'Empire colonial, et je ne critique pas, il faut se remettre dans la situation de l'époque, vous aviez la nationalité sans la citoyenneté. Il y avait un arrêt de la Cour d'Alger, que j'ai là, qui expliquait que les Algériens étaient de nationalité française, mais ils n'étaient pas citoyens français. Donc ce qui nous paraît aller de soi, c'est-à-dire le lien entre citoyenneté et nationalité, en réalité, c'est une rencontre pendant une phase de l'histoire qui n'a pas toujours existé, qui n'existera peut-être pas toujours. Alors la distinction entre la nationalité et la citoyenneté, ça veut dire restons nationaux français, nous aimons notre nationalité, et soyons des patriotes culturels, littéraires, historiques. Mais le patriotisme juridique, c'est-à-dire celui qui consiste, c'est un peu abstrait le patriotisme juridique, à s'intéresser à la loi, à la souveraineté, mais même quand même à l'époque des Grecs, hein, Aristote aimait tellement la loi que condamné à mort, il n'a pas voulu partir, il a préféré mourir. Donc c'est pas quelque chose non plus qui est tellement nouveau. Distinction entre les deux, la nationalité française, la citoyenneté européenne, plutôt la double citoyenneté, vous êtes citoyen français, vous votez à des élections françaises, puis vous êtes citoyen européen, vous votez à des élections européennes. Tout ça intégré dans le projet politique, ça vous plaît, ça vous plaît pas, c'est à vous de décider, c'est pas à moi, je serai mort. Il faudra vous débrouiller. Je vous remercie.